Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 18h à Kinshasa, voici le journal. L'émotion était à la hausse lundi matin à Kassindi au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à une dizaine de personnes chrétiennes à l'église de la 8e CEPAC Béni. Les familles des infortunés sont réconfortées par la présence des autorités de la région. Ouverture ce lundi à Davos, en Suisse, du Forum économique mondial. Ces assises de deux jours portent notamment sur la coopération dans un monde fragmenté. La RDC y est représentée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Notre invité, c'est l'élu du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, Emmanuel Ngarouye Mouza, s'exprime sur la situation désastreuse que vivent les habitants dans les zones occupées par les rebelles du M23. Au lieu de déloger ces rebelles, la force régionale de l'EAC privilégie plutôt la logique de négociation. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir au micro. Pascal Massirika, mise en onde de Polydor Basunga. Au Nord Kivu, la cité frontalière de Kassindi s'est réveillée sous une forte émotion ce lundi matin, au lendemain de l'attentat meurtrier à l'église de la 8e CEPAC. Les familles endeuillées qui attendent les corps des infortunés sont réconfortées par la présence des autorités de la région. Pendant ces temps, les services de sécurité s'activent à rattraper les criminels. Pour en parler, retrouvons à Béni Marc Marofimbo.
C'est une grande tristesse qui se lisait sur les visages des habitants de Kassindi ce matin. Ces derniers ont envahi dès la première heure l'hôpital général de cette cité où les corps des leurs sont gardés depuis hier. L'émotion est grande, comme l'expliquent certains qui ont accepté de s'exprimer.
On est là, on est à l'hôpital général, les autorités sont là. C'est compliqué, il y a même des corps de petits enfants.
Disons qu'on va enterrer aujourd'hui, mais on ne sait pas encore si on va enterrer ensemble, quand on va donner chaque corps à sa famille, on ne sait pas encore. Jusque là, on n'a pas encore vu même les corps.
Le représentant légal de cette église qui compatit avec ses fidèles en provenance de Suède leur demande d'être calme et d'attendre la suite des enquêtes initiées par les services de sécurité. Safari Mateso.
Nous déplorons cette situation. Je demande à tous les chrétiens de la CEPAC de garder calme. J'espère que l'État est en train de s'en occuper. Nous prions le Seigneur pour que l'examen des églises disparu, se repose en paix.
Signalons qu'une forte délégation du gouvernement provincial avec à sa tête le gouverneur militaire du Nord Kivu est arrivée à Kassindi ce matin pour assister à l'enterrement des victimes de cet attentat terroriste et réconforter cette population pendant ce moment tragique. Béni Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En réaction, le prix Nobel de la paix 2018 salue la mémoire des victimes de l'attentat à la bombe en plein culte à l'église de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. CEPAC. Le docteur Denis Mukwege affirme que le mode opératoire de cet attentat s'apparente aux rebelles ougandais de l'EDF affiliés à l'État islamique. Il plaide pour la restauration de la paix dans les provinces de l'Est de la RDC et de mettre fin à l'impunité qui alimente la répétition des atrocités. Nord Kivu, encore des mouvements de retrait des rebelles du M23 sont observés depuis plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru. Plusieurs sources pensent que c'est en exécution de la feuille de route des recommandations du sommet de chef d'État de Luanda qui fixait au 15 janvier la date du retrait du M23 dans les zones occupées dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo et de se replier dans leurs positions initiales à Sabinho et à Tchanzu. Les habitants de la zone qui parlaient d'une diversion demandent plutôt au gouvernement central de rester vigilant. Le point avec vous, Billy Valou.
Le mouvement de retrait des rebelles du M23 qui a commencé hier soir dans la partie est de Kiwanja s'est poursuivi ce lundi matin, témoignent plusieurs habitants à Kiwanja. Ces rebelles se désengagent des zones telles que Nyamilima, Buramba et Kisharo. Selon les mêmes sources ce matin, ce sont des colonnes d'hommes munis de leurs munitions et des colis sur la tête qui sont observés dans la cité de Kiwanja et Rutshuru centre. Ils prennent les uns la direction sud de Rutshuru, c'est-à-dire ils se dirigent vers Burai, 2 kilomètres de Rutshuru et Rubare, où on observe une forte concentration de leur présence, indiquent ces sources. Alors que d'autres se dirigent vers Kahunga sur l'axe nord Kiwanja-Kanyabayunga. La société civile de Rutshuru parle des mouvements flous de ces rebelles dans tous les sens. Des inquiétudes et incertitudes planent du côté de certains habitants de Rutshuru qui s'interrogent sur ces mouvements d'où on ignore jusqu'ici la direction finale. Il parle des mouvements de distraction sans doute pour tromper l'opinion étant donné que la date de l'ultimatum leur lancé a expiré hier 15 janvier. Certaines sources renseignent que ces rebelles se retirent de la chefferie de Bouicha et renforcent leur position dans deux groupements de la chefferie de Bouito, Bichoucha et Tongo notamment. La même source affirme que c'est à Bouiza, précisément leur quartier général, que ces hommes sont renforcés.
En réaction à cette préoccupation notable du territoire de Rutshuru au Nord Kivu invite la force de l'EAC, la communauté internationale et la MONUSCO à la vigilance. Aimé Mboussa Mukanda appelle le gouvernement congolais à se préparer à des offensives contre ces rebelles du M23. Il fait remarquer que ces rebelles sont en train de faire de la distraction de l'opinion et renforcer en même temps ses positions à l'est de Kiwanja. On l'écoute.
Il n'y a pas de retrait, il y a seulement un mouvement de rebelles du M23. Nous pouvons confirmer que ceux-ci se sont retirés seulement de deux localités, Nyamilima et Burambas. On s'est réveillé hier dimanche 15 janvier. Ils étaient invisibles dans toutes leurs positions, mais ils se cachent. Pour dire, ils sont visibles à Kisharo, Kiseguru, Katwiguru, Ngwenda. Mais le mouvement qui s'est observé aujourd'hui à Kiwanja, vers 20h et aujourd'hui lundi vers 5h, c'est une distraction, c'est pour distraire l'opinion vu l'expiration de leur ultimatum du 15 janvier de se retirer des zones qu'ils occupent à territoire de Rutshuru pour Sabinyo. Pour dire, l'EAC, la communauté internationale, la MONUSCO doivent être vigilants. La solution reste de frapper les rebelles puisqu'ils renforcent toutes leurs positions là où ils sont. Aujourd'hui, à Ngwende, ils ont renforcé, à Kahunga, ils renforcent. Même vers Bouito Bouiza, pour dire le gouvernement doit être vigilant, il faut nous préparer à la guerre contre ces agresseurs. Ils ne peuvent pas quitter notre zone sans qu'il y ait offensive.
Autre nouvelle en plus bref, le bilan des massacres survenus vendredi dernier à Nyamanda et à Mbogi est passé de 13 à 31 personnes tuées par des miliciens de la Codeco au bord du lac Albert. Les corps des infortunés ont été inhumés hier dimanche après-midi par de jeunes après le déploiement des FARDC qui ont permis à cette occasion aux civils qui avaient fui la zone de sortir de leur cachette. Économie à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné des ministres des Finances, de l'Environnement et de celui des Mines, sont arrivés en Suisse hier dimanche pour participer du 16 au 20 janvier courant au Forum économique mondial de Davos. Les assises de 2023 sont organisées autour de la coopération dans un monde fragmenté. Des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs centaines d'économistes, des chefs d'entreprise et d'activistes de la société civile vont parler autour d'une même table de l'état du monde et des priorités pour l'année prochaine. Explication de Cynthia Bachizina Bizana.
C'est depuis 1971 que les principaux responsables économiques et politiques du monde se retrouvent chaque année à la station de Davos en Suisse. Objectif, analyser et examiner les nombreux défis auxquels le monde est confronté et trouver des pistes de solutions par le biais de la coopération publique-privée. Et l'une des préoccupations majeures du monde actuellement est la transition énergétique dans un horizon à court terme. Une action qui dépend de la disponibilité des ressources minérales dites stratégique et des infrastructures appropriées. C'est justement au cours du panel qui tablera sur cette problématique que le président de la République prendra la parole. La RDC a le coltan, les lithiums, le cobalt, incontournable pour la transition énergétique à l'échelle mondiale. Et le pays souhaite concrétiser son projet de construction d'une usine de batteries pour voitures électriques. Mais les défis sont encore de taille. Infrastructure, énergie, c'est là tout l'enjeu de la participation du président de la République à cette réunion annuelle. Une opération séduction pour attirer des investisseurs qui viennent en masse à Davos. En effet, plus de 600 patrons d'entreprises seront présents, soit un participant sur quatre, ont annoncé les organisateurs.
Merci Cynthia Bachizina Bizana pour ces précisions. Dans l'actualité, il y a également la commémoration aujourd'hui des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. À cette occasion, le ministre d'État et ministre du Commerce extérieur plaide pour la consolidation des acquis de l'unité nationale prônée par les pères de la démocratie en RDC. Jean-Lucien Boussa est au micro de Jirlungembo.
est là, mais en tout cas, le Congo est uni, le Congo est solidaire et nous faisons face à un ennemi commun. Et donc, l'héros national Lumumba, qui a parlé de l'unité nationale, je voudrais citer, moi, le président Mobutu Sese Seko, qui a passé son temps à prôner l'unité nationale. C'est son père, que moi, je respecterai toujours. Le président Laurent Désiré Kabila aussi, il a dit quelque chose de très important, ne jamais trahir le Congo. Et donc, nous sommes sur... Nous, leurs enfants, nous, leurs fils, nous sommes sur cette lancée-là. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces acquis. L'unité nationale, nous protéger l'intégrité territoriale, la solidarité entre nous pour le développement du pays. Parce que tout ceci ne sera pas aussi solide si le peuple ne trouve pas son compte. C'est dont le président de la République travaille jour et nuit et pour lesquels, d'ailleurs, le programme des 145 territoires a été, mis en œuvre et est en train d'être appliqué. Donc je crois que pour respecter la mémoire de nos héros et de nos pères, nous devons travailler pour consolider l'unité nationale, travailler pour consolider l'état des droits, travailler pour consolider la démocratie et travailler pour le bien-être de nos concitoyens.
Vous suivrez l'intégralité de cet entretien avec Jiri Lungembo dans nos prochaines éditions de demain. On en vient maintenant à l'identification et à l'enrôlement des électeurs dans la province du Kwilu. Plusieurs requérants rencontrés ce week-end dans certains centres d'inscription de la CENI à Bandunduville dénoncent le monnayage de cette opération. Ils affirment que certains membres de ces centres et des policiers font payer aux requérants 1000 à 2000 francs congolais. En réaction à cette préoccupation, le chef d'antenne de la CENI appelle ceux qui se sentent lésés d'apporter les preuves. À Bandunduville, Irène Moma.
Si vous manquez l'argent, il est difficile pour vous d'accéder dans la salle d'enrôlement malgré votre présence pendant plusieurs jours devant certains centres d'inscription de la ville de Bandundu ou malgré votre ordre d'arrivée. Il faut donc glisser quelques billets de banque entre les mains des membres de ces centres d'inscription ou des agents de l'ordre afin d'entrer rapidement et obtenir votre carte d'électeur comme le dénoncent certains requérants.
Si tout le centre Mungus y attend des désordres, avant de s'enrôler, il faut d'abord donner le 1000 francs aux policiers, puis même les agents de la CENI. Les vieilles mamans, ils n'ont pas même le 1000 francs pour donner. Alors, ils font 2 à 3 jours sans toutefois prendre les cartes. Alors, on ne sait pas comment est-ce que nous devons faire.
Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Kwilu Jean-Robert Mouyens, rappelle que l'opération d'enrôlement des électeurs est gratuite. Il appelle les requérants à dénoncer tout monnayage à la CENI afin que les coupables répondent de leurs actes.
Ces personnes qui viennent dénoncer devant la presse, est-ce qu'elles ont-elles des preuves? Quand quelqu'un vous demande de l'argent, ils n'ont qu'à apporter ces preuves-là à la CENI. Avant de les sanctionner, on doit d'abord l'écouter. Les faits sont établis, l'argent est immédiatement sanctionné.
Selon Jean-Robert Mouyens, le monnayage de l'enrôlement constitue l'une des antivaleurs prohibées par l'éthique et la déontologie de l'agent électoral. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
CHAN Alger 2023. Le ministre congolais des Sports, Serge Nkonde, est en route pour Alger avec la prime des Léopards avant leur match prévu mercredi prochain contre la Côte d'Ivoire. Annonce faite ce lundi par le conseiller principal en charge des sports du Premier ministre. Jean-Marie Mbouyi Kalonji parle d'un malentendu concernant la prime des joueurs. Il rassure tout de même les Congolais et les familles des joueurs que les Léopards sont dans des bonnes conditions. Il le dit à Jonathan Fouanani, l'envoyé spécial de Radio Okapi à Annaba en Algérie.
Hier, avec l'équipe de la primature, nous avons été à l'hôtel Sabri avec la fédération et nos joueurs. Il y a eu un petit malentendu et qui a été balayé, qui a été résolu. Et aussi en même temps, son excellence, monsieur le ministre du Sport, Serge Kondé, il est en route pour ici en Algérie avec la cagnotte de nos joueurs. Donc je ne peux que rassurer d'un côté nos joueurs qui vont mouiller le maillot le mercredi, et en même temps aussi rassurer les familles de nos joueurs que nos enfants qui sont nos joueurs et qui sont nos Léopards, ils sont dans de très bonnes conditions. Ils ont joué leur premier match, ils ont fait match nul. C'est déjà un bon score. Et pour le reste de la compétition, ils sont déterminés à passer le premier tour. Mais quant à leur prime de match, et rassurez-vous, et nous rassurons aussi en même temps l'équipe nationale, que son excellence monsieur le ministre arrive incessamment avant le match de mercredi.
En ce qui concerne, je veux dire, les primes, parce qu'elles sont nombreuses, est-ce que ça sera seulement pour ces championnats d'Afrique ou les Léopards vont bénéficier aussi de leurs primes et des matchs d'amicaux?
Et là, je ne saurais pas vous donner le détail, c'est au ministre de Sport de donner tous ces éclaircissements.
Pour rappel, les Léopards menaçaient de faire la grève s'ils ne touchaient pas leurs primes.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, les habitants de la commune d'Arbidan, au nord du pays, sont toujours sous le choc après l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes et par des hommes armés le week-end dernier. Des femmes parties chercher de l'eau potable et cueillir des plantes ont été kidnappées. Quatre d'entre elles ont pu échapper à leurs ravisseurs et regagner la ville pour donner l'alerte à la population. C'est la première fois qu'Arbidan est confrontée à un tel phénomène. Selon dit, la commune est complètement confinée. L'essoufflement de la croissance dope actuellement le développement des emplois précaires et mal rémunérés. C'est ce qu'indique en tout cas l'Organisation internationale du travail dans un rapport publié sur l'emploi et les questions sociales dans le monde. L'essoufflement actuel de la croissance mondiale risque en définitive de pousser davantage des travailleurs à accepter des emplois de moindre qualité, des emplois mal rémunérés et dépourvus de protection sociale, souligne le rapport qui a été publié par l'Organisation internationale du travail, OIT, ce lundi. La hausse des prix est plus importante que la hausse des revenus, ce qui risque dangereusement de précipiter davantage les travailleurs dans la pauvreté.
L'invité.
Notre invité, c'est le député provincial élu du territoire de Rutshuru, Emmanuel Ngarouye Muhozi, s'exprime sur la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse dans les zones occupées par les rebelles du M23. Il parle de la désolation par rapport à la force régionale de l'EAC qui, au lieu de déloger les M23, est plus dans la logique de la négociation et s'entretient avec Alain Rongmouchinch.
Honorable Emmanuel Ngarouye Muhozi, bonjour. Vous revenez du Nord Kivu. Quelle est la situation sur place, surtout dans les parties occupées par le M23?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, nous revenons de la province Nord Kivu, la province qui est en difficulté aujourd'hui. Vous avez appris hier qu'il y a un attentat terroriste à Kasindi dans le territoire de Beni, c'est au Nord Kivu. C'est une situation déplorable, catastrophique. Nous profitons pour présenter nos condoléances à toute cette population victime. Dans les entités occupées par les rebelles, c'est vraiment aussi la misère la plus noire. À Rutshuru particulièrement, à Nyiragongo, les populations vivent une situation cauchemardesque par rapport, par exemple, aux soins de santé, c'est un problème. Chaque jour, nous avons des messages de personnes qui meurent et des personnes qui devaient être guéries, qui devaient être traitées, mais parce qu'il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de produits pharmaceutiques. Des gens meurent comme de mouches. Les produits de première nécessité, savon, sel, il n'y en a pas, parce que toutes les entrées sont bouchées. Il n'y a pas d'entrée de Rutshuru vers Goma, Rutshuru vers Ishasha, Rutshuru vers le Grand Nord, partout c'est bouché. Et donc c'est une population qui vit dans la prison à ciel ouvert. Cette population est dans un désespoir, parce que cette population attendait et attend chaque jour qu'elle soit libérée, malheureusement. Ça fait des mois et des mois, c'est un regret.
Comment vous expliquez le fait qu'on a l'impression sur terrain qu'il y a deux visions qui s'affrontent, Kinshasa qui a fait appel à l'EAC pour que l'EAC combatte le M23, mais du côté de l'EAC, on a plus l'impression que ce sont les négociations qui sont mises à l'avant-plan. Comment vous expliquez ces deux visions qui sont opposées pratiquement?
Effectivement, ça démontre que la République démocratique du Congo a fait marcher des dupes. Il s'est jeté dans la gueule du loup parce que l'EAC est constitué principalement par des pays agresseurs qui sont des amis de longue date. La République démocratique du Congo, c'est un nouveau venu. Nous ne maîtrisons pas encore les tenants et les aboutissants de cette organisation. Le président de la République, donc, devait comprendre cela et se dire que ce n'est pas là où proviendra la paix en RDC. Surtout que le président devait comprendre qu'il n'a pas prêté serment devant l'EAC, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation congolaise. Il devait constater que cette alliance est inopérante et penser à redonner la force au FARDC. Ça signifie un commandement sérieux, parce que nous avions un commandement en 2012-2013 qui a défait le M23. C'était les troupes congolaises commandées par le général Bauma et Mamadou qui ont défait le même M23 appuyé par le Rwanda et l'Ouganda.
Alors pour terminer, honorable Emmanuel Ngarouye, malgré tout, il faut garder l'espoir. Quel est le message d'espoir que vous lancez à toutes ces populations qui vous suivent, à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment?
Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que le président de la République ne cesse de se débattre en démontrant quand même la volonté de bien faire. Malheureusement, le problème est profond. Ce n'est pas un problème qui est venu aujourd'hui, c'est un ancien problème parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une continuité de la guerre de l'AFDEL, du RCD, du CNDP, du M23 version 1 et aujourd'hui M23 version 2e. Mais le chef de l'État, il a quand même compris contre qui il se bat. C'est déjà un grand point positif parce que lorsqu'on comprend déjà son adversaire, on le connaît, on sait quelles forces on doit déployer. Deux, le chef de l'État ne cesse de prendre des décisions qui corrigent certaines erreurs et qui redonne l'espoir des décisions qui nous font penser que demain nous pouvons avoir droit au sourire. Et donc, le chef de l'État ne manque que un bon entourage, mais il se démène et même si la souffrance est dure et atroce et nous voudrions avoir des solutions rapides, mais le chef de l'État se démène et en plus, nous avons une population prête à l'accompagner. Et donc, nous sommes convaincus que demain, nous aurons une bonne solution, mais nous appelons le chef de l'État à faire d'urgence parce que la population souffre, la souffrance est devenue trop atroce. Ça fait des mois et des mois que les gens dorment à la belle étoile, les gens n'étudient plus, ça fait la deuxième année blanche à Routchouroud, les gens n'ont plus droit de se laver parce qu'ils n'ont pas de savon, ils ne mangent plus du sel, ils sont devenus comme des animaux, ils n'ont plus de soins de santé.
Honorable Emmanuel Ngarouye-Mouzi, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Kapi, le député provincial élu du territoire de Routchouroud, Emmanuel Ngarouye-Mouzi, a été interviewé par Alain Rongomouchige. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.